on va parler d'essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques, ce n'est pas la majorité de ce qu'on a à lire, vous l'avez bien remarqué. Hein. Des essais thérapeutiques, finalement, il n'en sort pas beaucoup. Mais par contre, s'il y a bien quelque chose qui peut avoir une implication pour notre pratique de tous les jours, eh ben, ce sont bien les essais thérapeutiques. Donc, suivant. Les essais thérapeutiques, il faut les connaître, bien sûr, parce que ça va nous être utile, mais aussi, et ça c'est vrai, parce que les journalistes en ont parlé avant vous, aux gens. Hein, et ça c'est certain. Dès qu'il sort quelque chose, même, vous le savez, comme quand ce n'est pas sûr du tout, on a l'exemple du Rimbeur, peut-être que beaucoup de personnes vous l'ont demandé, même quand c'est très préliminaire, la demande est forte, raison de plus de pouvoir y répondre. Alors effectivement, quand vous avez à lire les résultats d'un essai clinique, vous vous fiez à deux ou trois choses qui sont éventuellement la revue dans laquelle ça paraît, le Lancet. Alors ça, c'est très bien de se fier à la revue, mais justement, c'est un réflexe un peu anti-lecture critique. Il faut quand même dans une bonne revue, il passe parfois des choses qui ne sont pas très bonnes. Gardez votre esprit critique, même si c'est une bonne revue, moi je dirais, pour commencer. La première chose que vous allez regarder, c'est dans quelle phase d'essai vous êtes. Ça, on va peut-être en reparler tout à l'heure. Vous savez que les essais cliniques ont plusieurs phases. Et il faut quand même savoir, en gros, que la phase 2... Les phases 2 sont généralement des phases de sécurité et tolérance d'un médicament. Et c'est à partir de la phase 3 qu'on parle d'efficacité. Donc celui-là, cet essai qu'on va vous présenter aujourd'hui est un peu particulier parce que c'est une phase 2 mais qui fait aussi de l'efficacité, hein, ce qui n'est pas tout à fait habituel. Très vite dans le résumé, vous lisez que c'est une étude qui a été faite en Russie. Bon, là, c'est pareil, hein, faut pas être nécessairement méprisant ou paternaliste. Bon, oui, mais c'est vrai qu'un essai qui est fait dans un seul pays est automatiquement entaché de doutes, à la limite, quel que soit ce pays, on va dire. On va dire comme ça. Vous pouvez aussi vous fier, si vous les connaissez, et puis on finit par les connaître, aux auteurs, et vous vous dites en effet, c'est Rachel Doudy. Rachel Doudy, qui est de l'université Baylor au Texas, et qui est vraiment une très bonne professionnelle, très sérieuse, que vous avez déjà entendue. Donc bon. Mais là aussi, gardez quand même votre esprit critique, même vis-à-vis des auteurs. Ça reste important. Donc ensuite, vous vous dites, très vite, les familles vous parlent de cet essai suivant et vous demandent si c'est un bon produit. Et donc, vous allez lire l'article avant de leur répondre, justement, pour jauger un petit peu cet article. Et ça vous sert à juger les essais qui sont déjà faits et dont on vous propose les résultats, et aussi à juger quand on vous propose un essai, est-ce qu'il a une méthodologie correcte, est-ce qu'il est bien fait, est-ce que c'est intéressant. Alors pourquoi mettre en place un essai thérapeutique? Bon, il n'y a pas besoin de rester très longtemps là-dessus, c'est évident. Dans le domaine qui est le nôtre, on a des progrès à faire. Faire des essais thérapeutiques, c'est évidemment important pour démontrer l'efficacité d'un traitement. Alors, il faut bien voir que les essais, j'allais dire, valables, dont les résultats vont être les plus valables, sont les essais randomisés. Hein, ça, c'est le meilleur niveau de preuve d'efficacité d'un produit. Si vous voyez, c'est une étude en ouvert, hein, en particulier en ouvert, open label, hein, vous verrez, bon, ben ça, c'est... Les gens ne sont pas en double aveugle, ça ne va pas être un niveau de preuve suffisant. En général, les essais, c'est soit comme ça en ouvert, open label, soit randomisé. On présente rarement des séries de 4 étés. En général, ça ne se fait pas comme ça. Donc vous avez à peu près ces deux catégories. En ouvert, c'est pas éventuellement inintéressant de regarder un petit peu ce que ça donne, mais vous ne pourrez pas en tirer des conclusions aussi solides par rapport à un essai randomisé. suivant. Voilà, donc vous avez dans le... Alors vous regardez le titre pour commencer, qui contient quand même pas mal d'informations. On vous dit qu'il s'agit d'un essai de l'effet du dit mais bon sur la commission, les activités de vie quotidienne, le comportement et le fonctionnement global chez des patients qui ont une maladie d'Alzheimer légère à modérée. Vous voyez tout de suite, là aussi dans le titre, qu'a priori vous avez affaire à un essai bien fait. Il est randomisé, en double aveugle et contre placebo. Hein, c'est donc la panoplie un petit peu complète des critères de bons essais. Suivant. Objectif de l'étude, donc on vous dit, vous retournez dans le résumé et on vous dit que ce qui a été étudié, c'est la tolérance, la safety, la sécurité d'emploi et l'efficacité du dimébon chez les patients atteints de maladies d'Alzheimer modérée à sévère, donc c'est léger à modéré. Donc c'est un petit peu particulier, encore une fois, d'avoir inclus l'efficacité, mais bon, après tout, vous vous dites pourquoi pas, parce que nous, c'est aussi beaucoup ça qui nous intéresse.
C'est complètement vrai. Ici, c'est parce que les résultats ont été spectaculaires, vous avez lu l'article, que finalement, la FDA a accepté que ce soit un phase 3. Il suffit de finalement qu'un seul effet confirmatoire pour obtenir la mise sur le marché du médicament. Mais en pratique, pour vous, ça veut dire que les essais de l'immédiat, enfin, l'égulation, c'est en cours actuellement, il suffit qu'il soit positif pour que dans les 2 ans qui viennent, on ait une nouvelle drogue avec une action originale. Et en pratique, c'est ça qu'on attend quand on est en consultation mémoire. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est ça qu'on attend. C'est le retour qu'on peut avoir de ça. Parce qu'en plus, on en parle à la radio. Alors, quand est-ce qu'on va avoir la drogue? Si c'est qu'un phase 2, c'est dans 5 ans. Ouais. Si c'est qu'un phase 3, une phase 2 passant dans 3 ans, voilà. Donc c'est très important de ce problème qui vous paraît peut-être un peu ésotérique de savoir critère primaire, critère secondaire, c'est absolument essentiel. Parce qu'au lieu d'avoir une drogue dans 2 ans, on l'aura dans 5 ans, voire dans 10 ans, si c'est une phase 2A. Donc c'est absolument essentiel de savoir ça.
L'autre élément important que je soulignerais, parce qu'on en a l'expérience, c'est que là, quand on lit les études de leur publication originale, on a exactement les conditions de validation du traitement. Et la formulation n'est pas toujours celle de l'ANA. Voilà, c'est très important d'avoir entre les mains les études.
Oui, non, tu peux le garder. Voilà, suivante. Donc, comment le traitement a-t-il été attribué dans cet essai? Donc, ça, c'est dans la méthodologie. Donc, c'est juste pour dire que le traitement a été randomisé, c'est-à-dire les gens sélectionnés ont reçu au hasard un placebo ou le dimébon, donc 20 mg, 3 fois par jour. Je pense que c'est la suivante. Voilà, ils reprennent les objectifs de la randomisation.
D'accord.
Hein, pour rendre les deux groupes de patients comparables sur à peu près sur toutes sortes de choses, ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas, hein, de façon à pouvoir les comparer. L'attribution du traitement, comme vous savez, ne dépend ni du patient ni du médecin, donc il n'y a pas d'influence de facteurs liés au prescripteur également, et les deux groupes finalement au total ne diffèrent que par le traitement testé. C'est exactement ce qu'on veut obtenir.
Est-ce que selon vous il y a d'autres méthodes que la randomisation pour obtenir des groupes comparables?
Justement, voilà, le biais de sélection, il faut savoir ce que c'est.
La réponse est non, c'est pas possible, évidemment. Ça, c'est très difficile à comprendre. Le seul moyen de rendre les groupes comparables, c'est de randomiser, tirer au sort. Toute autre méthode peut déboucher sur un biais de sélection. Mais la réponse est, la raison, c'est que ce problème de la comparabilité, on peut toujours imaginer un appariement sur de multiples facteurs. Le problème, c'est qu'il faut être comparable sur les facteurs connus, mais aussi sur les facteurs qu'on ne connaît pas, et qui font que l'évolution va être différente. Comment voulez-vous apparier sur les facteurs qu'on ne connaît pas? C'est impossible. Parmi ces facteurs, il y a les facteurs génétiques, par exemple. Vous n'allez pas faire un screening du génome à tout le monde pour être sûr qu'ils ont exactement pareil. Le seul moyen de rendre les gens comparables sur les facteurs qui jouent sur l'évolution et qu'on ne connaît pas, malheureusement on n'a pas la connaissance totale de l'évolution, c'est de randomiser. Tout essai non randomisé.
Et un autre biais de sélection qui est bien connu, c'est l'investigateur qui choisit les patients qui en prend ceci.
Bah oui.
Dans l'étude d'ENA, par exemple, puisque.
Qu'est-ce que vous avez fait dans l'étude d'ENA?
Elle est randomisée.
Je me suis trouvé avec des psychologues qui me disaient, mais monsieur Bien, ça n'a pas marché chez celui-là, parce qu'il est tombé dans le mauvais groupe. J'ai dit, je m'en moque. C'est ça la randomisation.
Bon. Et oui, c'est ça.
L'ETNA a rendu des services. Hein, dans chaque.
Ça a rendu des services. La randomisation, moi j'ai eu beaucoup clients qui ont fait des essais avec des investigateurs. Des gens qui voulaient dire non, et celui-là je l'aurais entendu, tu verras. Mais si on lui donne, ça risque de marcher. Ouais.
C'est ce qu'on veut éviter absolument.
Au-delà de la génétique.
Voilà.
Dans le biais de sélection, c'est souvent l'investigateur et son idée à l'avance.
Voilà. C'est ce qu'on veut absolument éviter dans l'essai.
Rajouter aussi que normalement, on note l'ensemble des résultats, ce qu'on n'est même pas au courant, parce que alors, si la personne est sous pression, donc on est dans un triple aveugle, y compris dans l'interprétation.
Oui,
oui. Le quatrième dessus.
Maintenant, le quatrième.
Vous avez marqué ça quelque part, voilà. Et donc, si vous allez.
C'est le statisticien qui donne
le statisticien. Voilà. Ouais. C'est celle qui a évalué les effets attendus.
Même le statisticien est corruptible. Hein. C'est lui-même le plus corruptible.
en fait. Donc, en tant que lecteur, vous devez vérifier la qualité de la randomisation. Un malade sur deux, ça ne va pas. Enfin, donc, les détails sur les procédures de randomisation, vous les avez sur le didacticiel, voilà, dans ce que vous lirez sur le site.
En pratique, la randomisation est faite le jour, elle est faite après la signature du consentement et des processus de vérification que le patient rentre bien dans les critères d'inclusion. Et c'est à la fin de ça que la randomisation a lieu et que l'essai commence.
Les essais, dans les traitements médicamenteux, on met un 3, où on va comparer des sujets malades et la maladie d'Alzheimer qui vont avoir une réminiscence thérapie des sujets qui ont des soins individuels, les deux ayant un soutien des dents, évidemment. Lorsque vous présentez l'essai à un patient potentiel, vous lui dites, vous participerez à un atelier.
Ou pas.
Ou pas. Mais ou pas, très doucement.
Très doucement. Ou pas.
Donc ils disent oui, ils signent, et c'est ça. Après vous mettez le corps et ils sont dans le groupe témoin.
Oui, oui.
Bah, ça c'est dur.
Et
bien
ça c'est. Hein?
Ça c'est dur. C'est dur. Et c'est un problème qu'on n'a pas complètement résolu encore. On ne sait pas comment faire. C'est pour ça que les essais contre prise en charge
individuelle, oui, ça c'est un problème.
Obtenir l'accord éclairé avant la randomisation, c'est un énorme problème. Donc soit il faut une prise en charge alternative, la tenue de choses.
Aujourd'hui, j'ai accepté le placebo, mais pas
sûr. Bien sûr.
Plus en plus. Oui, pardon, je dis de plus en plus aujourd'hui dans les études, ils savent qu'il y a. Ils sont potentiellement sous placebo, ils acceptent quand même.
Quoi. Quand ils ne savent pas, ça va. Quand ils sont sûrs de ne pas avoir le traitement, s'ils ne font pas l'atelier, ils ont les soins visuels, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème.
Bon, là, ici, il n'y a pas de problème. Tout le monde va prendre 3 comprimés par jour pendant 6 mois. Il n'y a pas d'histoire. Hein. Ça, c'est même suivi, comme vous savez, suivante. Donc, elle est effectivement en double aveugle tout au long de l'étude. Bon, je crois qu'il n'y a pas besoin de.
On doit vérifier que la comparabilité des groupes se maintienne tout au long de l'étude.
Oui. Voilà, donc on ne sait pas, hein, tout au long de l'étude, suivant, en double aveugle, donc ça c'est très bien.
Je pense que ça mérite quand même une précision, parce que c'est passé, c'est devenu tellement le lieu commun, ce double insu, on a l'impression que vraiment, mais c'est vraiment absolument essentiel. Il y a un autre papier du 27 qui a été publié sur les effets de l'aspirine dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. 500 patients,
je pense, c'est quelque chose.
500 patients traités par rien, pas de placebo. Rien. Le groupe qui a reçu 64 mg d'aspirine a été amélioré sur le plan de la qualité de la vie, de l'évaluation et de la qualité du patient qui est parlé. Avec 64 mg d'aspirine. Vous donnez un ouvert. Alors qu'il n'y a aucune autre amélioration. Simplement, le fait d'avoir donné 75 mg d'aspirine fait que les gens vont mieux. Vont mieux, on a amélioré la qualité de la vie pendant un an de ces personnes. Un an.
Ou qui sont revenus régulièrement aux consultations.
Oui, d'accord. Enfin, c'est pour vous dire tout l'intérêt qu'il y a. Et d'abord pour vous dire qu'on n'a pas tout compris de l'évolution de la maladie, parce que il y a l'effet placebo, le pouvoir de suggestion du médecin, la confiance qu'on peut avoir dans un nouveau traitement, même si c'est du cardiologique. Donc c'est absolument indispensable d'évaluer ce type de produit avec le médecin, parce que sinon, c'est n'importe quoi.
Et c'est très important qu'il n'ait pas d'effet secondaire éventuellement évident, parce que sinon vous pouvez... Alors, juste pour vous dire, dans le Rambler, le fameux Rambler qui était du bleu de méthylène, bah, le problème, c'était justement que les... Voilà, hein, qu'on savait qu'il prenait le...
Il paraît que c'est pas fait.
Ah bon?
Oh. Si, le bleu de méthylène,
il paraît que c'est pas fait, d'abord.
Que ça... Bon. Enfin, on n'a plus entendu parler, mais enfin bon. Voilà, le fameux critère de jugement principal.
Peut-être la seule question posée par cet article.
Voilà. Alors moi, je dirais que le critère principal, là, c'est marqué la cognition. Hein, c'est marqué la cognition. Mais moi, je dirais que c'est le critère principal dans l'efficacité, voilà. Safety et tolérabilité, c'est autre chose. Et le critère principal... Parmi les différentes choses qui ont été mesurées, par contre, c'est bien effectivement la DASCOG. Et donc, c'est bien sur ce point que l'essai sera positif ou négatif. Alors ça aussi, c'est assez clair dans la présentation. Il faut juger l'essai sur son critère principal. On peut regarder s'il y a eu d'autres mesures qui ont eu, pour lesquelles il y a eu une différence en faveur du traitement. Mais l'essai sera négatif s'il est négatif sur le critère principal, on peut dire ça. Pourtant, il y avait le comportement, les activités de vie quotidienne, mais là, c'est la DASCOG.
Non, mais je suis d'accord, mais pour moi, ce critère, il me passe 3.
Ah oui, ça d'accord, mais ça...
Parce que quand on fait les phases 2, on a des gens à qui on fait des biologies tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, pour voir où est passé le produit, comment il a été filtré par le rein, etc. Par exemple, on fait des trucs... respiratoire, ou des électrocardiogrammes en série, enfin,
c'est sûr.
Notre méthodologie beaucoup plus compliquée, avec d'ailleurs des faibles groupes de population, parce que c'est tellement lourd que, tandis que là, il vérifie que ça améliore la mémoire.
Mmh. Oui, c'est hors...
On ne cherche pas à savoir ce qu'il fait chez la personne dans son organe différent, on se dit, est-ce que ça améliore la mémoire. Mmh. Je suppose que c'est en plus en analyse secondaire que l'on a dû voir ça chez les gens... On nous avait dit qu'éventuellement ça allait être chez les gens qui prenaient pour une allergie et qu'on s'était dit, tiens, ils ont l'air d'améliorer.
Ouais, voilà. Je crois que ce point est absolument essentiel. Le médicament, en fait, ça a été déjà connu. Ce n'était pas un nouveau médicament qu'on sortait, il était déjà commercialisé en Russie d'ailleurs.
En Russie uniquement.
Antihistaminique. Donc on n'est pas dans la situation où on ne maîtrise pas la tolérance de ce produit, il était déjà commercialisé. Donc on comprend mieux à la lecture, même si ce n'est pas clair au début, qu'un produit non connu dans la condition commence par en fait un phase 3.
C'est vrai, le fait qu'il soit déjà connu, mais voilà, connu, commercialisé, et avec un profil de tolérance qui était, bon, qui était ce qu'il était, pas mauvais. Donc là, c'est l'ADASCOG, critère de jugement principal, donc on l'a dit, qui sert à juger si l'étude est positive ou négative. Et c'est aussi, alors ça c'est important, le critère de jugement sur lequel est basé le calcul du nombre de sujets nécessaires. Alors ça, je vous laisse la parole, parce que justement, ça, c'est jamais, enfin, c'est pas très simple à expliquer.
Non, ce n'est pas très simple.
Donc voilà, donc là, je vous... Voilà, oui.
C'est pas le risque alpha qui détermine, je crois, directement le nombre de sujets.
Alors voilà, et... Alors voilà, ça, c'est pour vous, ça.
On calcule le nombre de sujets nécessaires. Bon, alors, on va voir s'il y en a d'autres qui savent,
parce qu'ils disent tout. Non, mais bon, j'ai une société de recherche évidemment.
Je sais, je sais.
C'est des arts.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui savent comment on calcule? D'accord. Alors, je vais vous laisser parler, puis après, ils ne disent pas tout bien.
Moi, je veux. Bon.
Donc, écoutez, les statisticiens, ils ont une formule, le temps de la sortir, c'est extrêmement compliqué. En fait, on demande à celui qui initie son projet de nous dire quel est le bénéfice qu'il attend. Donc, il y a un bénéfice relatif. Il va dire, bon, je souhaite améliorer la mémoire de tant de points dans ce que j'attends, hein, ce que j'attends moi, dans mon étude pour la juger comme possible. Et à partir de cette donnée, donc le risque A et le fameux risque B, qui est un risque relatif par rapport à la population donnée, il y a une formule, je l'ai pas là, parce que je la sais plus par cœur, mais quand je la présente, c'est extrêmement compliqué, c'est une équation, et à partir de cette équation, sort un nombre de sujets. Et c'est très important de savoir ça, parce qu'en en fait, le statisticien, à partir de là, dit, moi, à partir du moment où vous changez ce que vous
oui,
attendez,
ce critère, oui.
Vous devez normalement me redéfinir un critère de vos attentes de bénéfices. Et donc, si toutes les analyses, c'est pour ça que je me suis des fois gendarmé et accroché à certains qui présentaient des études, parce qu'ils présentaient des bénéfices secondaires, en disant ce bénéfice secondaire chez les diabétiques de l'étude montre que ça fait du bien, mais en réalité, est-ce que si on avait décidé de tester ça chez les diabétiques, en disant
d'accord.
On attend qu'ils améliorent de tant de points chez les diabétiques, est-ce qu'il y aurait fallu le même volume de population? Ça, on ne le sait pas. Donc c'est en fait un critère spécifique très précis sur lequel la personne qui décide.
Donc là, on...
La personne qui va calculer l'échantillon demande très clairement aux gens qui font l'étude qu'est-ce qu'ils en attendent.
Alors, là, probablement...
Juste un complément de ce que vient d'être dit, vous voyez que l'élément le plus important et de très loin, c'est finalement que le clinicien puisse se dire qu'est-ce que j'attends d'un nouveau traitement. C'est ça qui est essentiel. Le reste, c'est la cuisine statistique. Le risque alpha, le risque bêta, c'est des trucs que vous pouvez. Bon, il faut avoir des notions de ça. Mais en fait, alpha, c'est 0,05, on sait bien que c'est 5%. C'est 5% depuis la guerre de 14. C'est basé sur un empirisme, c'est d'abord des statisticiens militaires qui acceptaient 5% de pertes pendant les grandes manœuvres, en homme et en matériel.
Ils ont toujours.
Oui, c'est ça, 5%. C'est tolérable. 5% d'erreurs, parce que c'est des erreurs, c'est tolérable. Donc ces 5%, ils viennent de là. On se dit, on peut se tromper. Qu'est-ce que ça veut dire se tromper dans ce cas? C'est considéré avec un traitement efficace, alors qu'en fait, il n'est pas. C'est ça le risque alpha. Ça, c'est 5% d'erreurs. Et puis à chaque côté, il y a la puissance de l'analyse. C'est-à-dire la probabilité de montrer qu'un traitement est efficace alors qu'il l'est. Non, il est. La puissance, c'est la probabilité qu'un traitement ait été. De montrer qu'un traitement est efficace alors qu'il est effectivement efficace. C'est ça la puissance. Et ça, évidemment, on aimerait bien que ce soit 100%. Si un traitement est efficace, on aimerait bien pouvoir le montrer à tous les coups. Mais on ne peut pas à 100%, ça nous ferait la taille de la population française. Dommage. Si on voulait faire un essai. Ce n'est pas possible de 100%. On prend en général 80%. Vous voyez, 5% à 80%, ça c'est les statistiques qui font, ça c'est ma cuisine statistique. Et ce qu'il faut que le clinicien comprenne bien, c'est qu'il faut que l'effet du traitement, il veuille dire quelque chose sur le plan clinique. Sinon, c'est pas la peine de le faire à l'essai. décomplexé par rapport à ça. Vous voyez, il faut vraiment se poser la question, dans cet essai, ce qu'ils attendaient, c'est-à-dire, je ne sais pas combien, 4 points d'Alaskog.
Mais je suppose 3 ou 4 points d'Alaskog. Pourquoi ? Par comparaison aux inhibiteurs. Hein. C'est tout ce qu'on connaît.
Sur 6 mois, parlons de 2 points de MMS, par exemple, 2 points de MMS de gain sur 6 mois, est-ce que 2 points de MMS de gain ça vous paraît bien. 2 points de MMS.
Sur 6 mois de gain ?
Sur 6 mois.
J'achète. J'achète.
Marco. On calcule, non ?
Alors voilà, quand même.
Qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? Et ça, c'est très important de savoir retrouver dans l'article cette information. Si ce n'est pas.
Et la formule est très compliquée, on ne peut pas arriver non, à ça, savoir plus. C'est... Bon, d'accord, bon. Bon.
Non, bon. La formule te fait fuir.
Bon, d'accord, bon, ben je comprends. Alors, il... D'accord, donc il faut savoir... D'accord, d'accord, mais c'est qu'elle est compliquée. Bon.
Par contre, moi, je n'achète pas les 2 points, je vais dire pourquoi. Dans ces études de mémoire, il y a le cotateur. Je te dis ça parce que j'ai participé à une étude sur les médicaments qu'on utilise en diabète pour l'amélioration de la mémoire, et les Américains ont exigé que nous fassions valider ADASCOG. Parce que là, une méthodologie extrêmement rigoureuse, ils ont fait venir à Paris, ils ont fait de la DASCOG avec
elle. Mais donc, nous, on l'a refait pour chaque essai.
Jamais dans les études. On nous montre, si vous non, je parle pour ce qui concerne le MMS et le SCOG, donc les échelles, s'il existe un critère de validité intercotateur. Là, je ne l'ai pas lu. Je ne le sais pas. Or, dans leur dernière étude, le problème c'est que ça n'a pas marché, donc c'est très bien, mais ils nous ont exigé non seulement de nous valider sur par ordinateur, et de se revalider à 6 mois.
Ouais. Et nous sommes actuellement asexués avec tous ces essais, de manière à vous.
Ah oui,
depuis,
oui.
On utilise la DASCOG depuis 30 ans.
20, depuis qu'elle existe. Toutes les psychologues sont revalidées à chaque fois, à chaque fois. Elles en ont des centaines derrière elles. Pardon. Sur les essais précédents. Et des anciens médicaments.
Donc, ça peut être l'expérience clinique des médecins, et puis ça peut être aussi.
Les autres. Voilà, c'est ça.
Donc, on se base. C'est un compromis. C'est un compromis entre les trois choses qu'on a vues tout à l'heure. Les attentes, les
l'expérience.
Est-ce que pour eux, on peut dire que c'est bien de gagner le point ? Est-ce que nous, dans notre expérience, gagner le point, c'est bien ? Et puis, dans la littérature, est-ce qu'il y a des produits qui ont pu gagner le point ? C'est éminemment clinique. C'est un choix, mais ça peut être décliné quand même. Et c'est absolument essentiel. C'est la chose la plus importante.
En tout cas, on n'a pas jugé du calcul, mais le calcul est détaillé dans l'article aussi. Ça fait partie des lectures critiques. Même si on le...
Le jugement, maintien de la comparabilité, ben ça c'est le... Justement. Alors oui, une des choses que vous regardez, donc vous avez un nombre de sujets, donc vous voyez comment c'est calculé. Il y a 155... patients, on vous dit, il y avait 180 et quelques randomisés, hein, inclus, 183 patients randomisés, inclus. Ce que vous devez regarder effectivement au cours de l'essai, c'est combien ont complété l'essai dans chaque groupe. Là, on vous dit qu'il y a à peu près 85%, hein, c'est ça, 85% des sujets de chaque groupe qui ont complété l'essai, ce qui est plutôt un bon pourcentage. C'est un bon pourcentage, ça paraît correct. Moi, je dirais qu'au-dessous de, je ne sais pas, justement, je ne sais pas trop, au-dessous de 60% dans un groupe ou dans l'autre ou dans les deux, là, vous devez commencer à vous dire que quand même, un sur deux, près d'un sur deux qui sortirait de l'étude, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Au-dessus de 80%, c'est tout à fait correct. Et dans les deux groupes.
Donc, c'est pas mal. Et alors, surtout, ben là, je vais rajouter une diapo, il doit y avoir le diagramme de flou dans une étude, en principe. Hein. Ça vous aide à voir justement combien de malades ont filé avant et après randomisation aussi. Ouais. Quelle est la représentativité de l'étude. Voilà, donc normalement, un diagramme de flux aide à chart flow. Et ça vous aide à comprendre.
Ce diagramme de flux avec, parce que je le vois comme ça, et le voir comme ça m'amène, est-ce que cet essai, à ce stade de l'analyse, vous pose un problème, que ce soit de nature méthodologique ou éthique, à ce stade, compte tenu qu'il a été fait l'année dernière. Mais le problème, c'est qu'on compare avec un placebo.
Oui, mais il n'est pas dit que son privé des
éthiques. Oui,
si. En pratique, si.
Il n'y a pas d'autre traitement. Il n'y a pas d'autre traitement. Donc simplement, c'est pour ça qu'il est fait en Russie. Je vous l'ai un peu dit tout à l'heure. C'est pour ça que cet essai a pu être fait en Russie, en France. Actuellement, ce type d'essai serait quasiment impossible. Et en fait, on a pu faire un essai pivot avec le produit parce que, en fait, l'essai a été réalisé sur 3 mois.
Je ne crois pas, non. Sur 6 mois. 6 mois.
C'était 6 mois, on l'a refait. Sinon, l'essai, il y a quelques années, était totalement impossible.
Ouais.
Il y a 4-5 ans, on nous aurait proposé cet essai. Tout le monde nous aurait refusé. Parce que on croit tellement aux inhibiteurs de la cholinestérase, enfin, on le donne, on se dit, c'est pas le truc de ne pas le donner. Mais là, les résultats de ce premier essai étaient tellement spectaculaires.
Oui, ça a joué beaucoup.
On s'est dit, allez, ça mérite de retarder les 6 mois la mise sur l'inhibiteur. C'est vrai que c'est pas évident, ça au départ.
Ah non, actuellement c'est pas évident.
Je ne peux pas dire que ça pose problème.
Ah c'est.
Donc en fait, y a-t-il comparabilité des groupes et y a-t-il maintien de la comparabilité tout au long de l'essai? Donc je vous ai mis un peu les 3 éléments qu'on peut faire ressortir de cet article. On doit avoir un tableau donnant les caractéristiques principales de chacun des
groupes. Donc chacun des groupes, vérifier qu'ils
donc
sont.
Là, il se trouve que cet essai mentionne aussi la race, hein, mais c'est très pays dépendant. L'âge, le poids, la corpulence.
Enfin, et la race, c'est 100%. Ouais. Les deux groupes.
Oui, en Russie,
les...
L'importance de la race en Russie, moins évident, mais enfin.
C'est
utile. Oui, eh ben oui. C'est correct.
Si on regarde la comparabilité, il faut quand même lire aussi le texte. Et là, il y a une petite inégalité, mais qui n'atteint pas une signification statistique, c'est que le groupe le traité s'est gavé de barbiturique. En fait. Donc,
de petites doses de barbiturique.
Petite dose, c'est pas significatif, mais quand même, les auteurs le font remarquer dans le texte. C'est 23% contre 16%.
Juste aux États-Unis, noter la race, c'est bien montré qu'il y a eu... il n'y a pas eu de ségrégation sur la race et qu'on a bien traité dans la même proportion noir, blanc, hispanique dans les deux groupes. Il n'y a pas eu un groupe qui a été lésé. C'est ça que ça veut dire aux États-Unis. Donc, vous voyez, nous, ça nous paraît au contraire absurde de parler de la race. Mais la race, c'est au contraire démontrer qu'il n'y a pas de ségrégation. Et c'est pour ça, là, vous regardez qu'en Russie, mais c'est un Américain qui l'a écrit.
Oui, c'est pour ça. Ouais. Oui, comme si.
Alors voilà, donc c'est la comparabilité sur les traitements. Et la comparabilité en cours d'étude, en fait.
Ça, c'est les effets secondaires. Hein, ça, c'est les effets secondaires.
Par rapport au traitement,
ça.
Normalement, est-ce qu'on retire les observations incomplètes?
Voilà.
Genre, madame Intel, qui restait une semaine dans l'essai. t'es déménagé ?
Non,
mais
non.
Ça, je sais que tu sais. Alors, voilà, c'est on traite en un, c'est une analyse en intention de traiter. Donc, je vais faire appel à des modèles longitudinaux. Je vous donne juste la présentation. Avant. Pardon, je vais laisser Jean-François parler.
C'est très important de comprendre ça.
C'est pas la même chose. Ah oui, ça, c'est toujours.
C'est très important de comprendre ça. En fait, quand vous calculez un nombre de sujets nécessaires, vous avez donc, il faut vous attendre à avoir 100 personnes, par exemple, dans chaque groupe. Et c'est là-dessus qu'a été construit votre table de sciences donc de 100 personnes qui soit inclus. Bon, le problème, c'est qu'il va se passer plein de choses au cours du suivi. Vous avez des gens qui ne vont pas tolérer le traitement. Vous avez des gens qui vont refuser le traitement. Vous avez des gens qui vont avoir des effets secondaires et qui vont l'arrêter. Vous avez des gens qui vont déménager en cours de traitement parce que leurs enfants, en cours de traitement, initialement, ils n'avaient pas prévu leur traitement d'institution, mais finalement, les choses se sont dégradées, ils rentrent en institution. Vous avez des gens qui vont mourir
en cours
de traitement. Donc, pour analyser l'évolution de ces personnes, c'est souvent très compliqué. Alors que votre taille d'échantillon, au départ, a été calculée comme si vous suiviez tout le monde. Et il faut être certain que votre attitude est neutre dans l'évolution par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous aurez considéré qu'un effet thérapeutique, un effet secondaire, comme par exemple le nausée et le vomissement, est attribué au placebo comme il est attribué, c'est un excuse, après tout. Et ce n'est pas suffisant. Ceci n'est pas suffisant. Vous savez, quand on donne des inhibiteurs d'insulinique que les esterases, et qu'on voyait qu'un patient commençait à vomir, de manière, évidemment, on se doutait qu'il était sous des inhibiteurs, qu'il n'était pas sous placebo, ça se sait. Donc si vous voulez, même s'il y a un su, à partir du moment où il y a des effets secondaires, le clinicien arrive à savoir si le patient prend le traitement ou pas. Donc on ne peut pas prendre ce risque. Ce qui fait que on va considérer dans l'analyse statistique tous les cas qui ont été randomisés. C'est donc pour lesquels on avait l'intention de traitement. Mais évidemment, ça pose problème, puisque ces cas qui ont tous été randomisés, on ne les suit pas jusqu'au bout. Ceux qui sont morts, ceux qui ont déménagé, ceux qui refusent de venir au bout, vous ne les suivez pas jusqu'au bout. Si vous les suivez sur un an, ben non, 26 semaines, c'est-à-dire, si vous les suivez sur 6 mois, vous aurez un certain nombre de données manquantes, parce qu'ils sont partis, parce qu'ils sont morts, parce qu'ils ont refusé de venir au bois. Que leur attribuer comme valeur? C'est très difficile. Alors, la règle qui actuellement prévaut, c'est qu'on considère la dernière valeur modifiée et mesurée au cours du suivi. La last observation carrière
forward. Oui.
Donc c'est la dernière observation qui a été faite. Donc si par exemple, vous avez quelqu'un qui est venu à baseline il y a 4 semaines, puis qui ensuite n'est plus vu du tout, vous allez attribuer à 26 semaines la valeur qu'il y avait à 4 semaines. C'est ça que ça veut dire. C'est la dernière observation que vous connaissez du patient. Donc s'il y a beaucoup de perdus de vue, s'il y a beaucoup d'attrition, s'il y a beaucoup de perdus de vue, évidemment, ça doit viser considérablement.
Ça fausse, oui. S'il y en a beaucoup, ça fausse tout.
S'il y a beaucoup, ça fausse tout. Donc la qualité de l'essai, c'est très important de savoir combien ils ont perdu de vue de patients, combien ils sont morts, combien ont refusé le traitement. Parce qu'après, sinon, l'analyse statistique peut être différente. Et pour l'instant, c'est vraiment ça qui est considéré. On attribue à la fin le score qu'il y a eu à 6 mois, on attribue à 6 mois le score qu'il y a eu à 3 mois, si on les a vus la dernière fois à 3 mois, le score qu'il y a eu à 15 jours, si on les a vus la dernière fois, il y a 15 jours. Et si on ne les a plus suivis du tout, ben c'est le score initial, au moment de la randomisation. Donc ça oblige vraiment le clinicien à être très scrupuleux dans son suivi, parce que ça pèse énormément, comme vous le savez bien, dans le suivi. Et alors le problème, c'est de savoir, est-ce que ça pénalise, ou est-ce que ça pénalise le placebo, ou est-ce que ça pénalise le traitement? Mais ça dépend.
Ça dépend.
Si le traitement a beaucoup d'effets secondaires, ça peut pénaliser le placebo. Le traitement qui a beaucoup d'effets secondaires est avantagé par ça. Obligatoirement. Ce qui est clair, les inhibiteurs de la cholinesterase n'ont pas énormément d'effets secondaires en traînant des arrêts. Donc ça a joué peu. Et là, dans le milieu bon, il n'y a quasiment pas d'effets secondaires.
Il y a peu. Relativement peu, et d'ailleurs.
Donc, pour un traitement qui a peu d'effets secondaires, le biais d'utiliser la dernière observation prise en compte est peu faible. Par contre, s'il y avait beaucoup d'effets secondaires, d'interruptions d'essai, là c'est ennuyeux. Il faut savoir ça, parce que c'est écrit nulle part. C'est une histoire, à part à un niveau de formation très élevé. En médecine. C'est tant mieux parce que c'est une des critiques principales dans les essais. Oui.
Et s'il y a eu beaucoup d'interruptions, à partir de combien de pourcentage, on dit, est-ce que l'article ne serait pas sorti déjà? Ou est-ce qu'il est peut-être sorti et que c'est à nous de critiquer justement la courbe de combien?
Oui. Bonne question.
Ben oui, alors c'est pas comme les 5% de la. Je vais pas vous donner une recette comme les 5% des grandes manœuvres, hein. C'est pas. Ils sont arbitraires finalement, vous l'avez compris. Là, le chiffre qu'on a est arbitraire. C'est sûr que s'il y a plus de 50%
ouais,
de perfection au bout du suivi, alors là, on peut dire que c'est un.
Ah, yes.
C'est pas correct. Plus de 50%, c'est pas correct. Entre 50 et 70% ou 75%, c'est limite. Et au-dessus de 75% de suivi, c'est un très bon essai. Vous pouvez dire ça.
Oui.
C'est assez arbitraire.
C'est un peu arbitraire. C'est ça, c'est un chiffre comme ça que je cherchais. Mais
si vous voulez, même, il faut se dire que même le 5% est arbitraire. C'est devenu une règle sacro-sainte. Mais même ça, c'est arbitraire.
Là, on est dans l'interprétation. Moi, je rappelle quand même que toute personne qui a signé un consentement éclairé est dans l'étude. C'est vrai qu'on lui demande un nombre de listes. Sur le plan légal, très important de savoir. C'est là qu'on demande d'ailleurs où ils sont nés. Parce que si on les a plus, on peut rechercher par les mairies qui sont décédés. Et quand ils sont décédés, il faut qu'on sache qu'ils ne sont pas morts du Covid ou du tout. Ça, c'est un point. Deuxièmement, en analyse, lorsqu'il y a vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'étude, on voit des analyses en secondaire. Justement, c'est là qu'ils se mettent à chercher des sous-groupes pour essayer de rendre quelque chose qui a l'air pertinent et qui va des fois être passé dans des journaux de renommée mondiale, hein, sur des analyses en sous-groupe, parce que justement, dans l'analyse globale, ils avaient perdu un certain nombre de patients. Ça ne peut pas arriver souvent, mais il faut savoir ce qui peut arriver.
Est-ce que vous connaissez le moyen que l'on a actuellement pour éviter ça? Les analyses en sous-groupe, au secondaire, comme ça. Maintenant, c'est possible. Ce ne l'était pas il y a 10 ans. C'est que nous sommes tenus de déclarer l'essai et le protocole et le critère de jugement avant de commencer l'essai dans un fichier mondial. Les essais thérapeutiques. Maintenant, et vous ne pouvez publier dans les grands journaux que si l'essai a été déclaré dans un fichier mondial. Je peux vous dire que MAPS et NH3 sont déclarés dans le fichier mondial. Parce que sinon, on pourrait se regarder aussi et dire que ce n'était pas le passage au stade sévère qui était important, mais qu'en fait, c'était la qualité de vie de l'aidant. C'est très facile de changer.
Et ça empêche de le faire.
Mais si on l'a déclaré dans on peut avoir accès sur Internet. On a envoyé le protocole NH3 sur Internet, au centre, et donc là c'est déclaré, et on ne peut plus faire d'analyse de sous-groupe, parce que les reviewers du Lancet, du New England et des plus grandes revues actuelles, ils vont aller voir le protocole et voir si ce qu'on dit est vrai. Donc ça, c'est devenu un parable.
Ah mais ça on ne sait pas. Ben ça on ne sait pas.
Il y a des gens qui sont plus faibles en dehors parce que beaucoup d'autres, c'est probablement. Il y a des gens qui psychologiquement jouent plus, il y a des critères qui répondent plus au passé beaucoup d'autres. Mais même la condition répond au placebo, quand vous pensez qu'un test cognitif comme la DASCOP, si vous dites à la personne que c'est un test de mémoire, elle va être mauvaise, et si vous dites que c'est un test de connaissance, elle va être bonne. Je peux vous dire que la DASCOP, par exemple, qui paraît pourtant être un truc
très carré, standard
et très sensible à ne serait-ce qu'à la manière avec laquelle on présente le test. Donc, il y a des personnes plus répondeurs que d'autres, mais pour ça, on ne se donne pas le moyen, effectivement, de savoir si les gens sont plus répondeurs ou pas au placebo.
C'est ça le mérite,
effectivement.
Donc, la réponse au placebo,
elle est...
justement, à cause du tirage au sort, on ne le sait pas ce que vous dites. Et à cause du tirage au sort, on a équilibré dans les deux groupes les répondeurs au placebo, donc a priori, ça ne va pas biaiser toute l'analyse. Ça fait partie effectivement des facteurs qu'on ne maîtrise pas.
Mais sauf que dans le groupe non placebo, ils n'expriment pas leur sur-réponse au placebo.
Ah si, bien sûr que si. Dans le groupe intermédiaire. Donc ils répondent aussi.
Oui, donc la randomisation.
C'est la randomisation qui nous sommes.
Qui nous.
Donc,
sinon, oui.
C'est très bien. Et devenir des experts en étoile.
Comme vous avez aussi sur le site, donc les critères pour rejeter un essai randomisé, ce qui est dit, en fait, c'est que quand il y a plus de retraits que d'événements de jugement, c'est un critère de jugement, l'essai devrait être rejeté.
Voilà.
Oui.
Donc pour répondre à ta question, oui, il n'aurait pas été publié là. Ça, c'est sûr.
Et puis, naturellement, une proportion de retraits différents dans chaque groupe.
Ça, oui. Là aussi, ça pose problème. Oui, ça devrait. Voilà. L'analyse per protocole, ça c'est l'analyse des gens qui sont effectivement restés dans l'étude. Hein, on vous donne une analyse en intention traitée et vous avez aussi, donc avec tous les manquants, les perdus de vue, etc., vous avez aussi l'analyse per protocole qui est l'analyse des gens qui sont, qui ont effectivement complété le protocole de façon sur toute la durée de l'étude. Hein, donc vous regardez un peu les deux. C'est intéressant de regarder les deux, de toute façon. Mais là, si, voilà.
C'est vrai que l'analyse à l'intention de traiter, c'est celle qui est la plus clean, qui est celle qui, disons, vous permet de publier dans les grandes revues, et qui est celle qui est, pour les méthodologistes, la plus convaincante. Mais il faut bien avouer que pour les cliniciens, c'est quand même très important de regarder ceux qui ont effectivement suivi le protocole. Imaginez NA3, vous avez le groupe réminiscence thérapie, et il y en a 5 qui sont. Imaginez que dans un groupe vous aviez 10 personnes, vous avez 3 qui sont partis, et 7 qui ont suivi jusqu'au bout. Bon. Certes, les 3 qui sont partis sont importants, mais enfin, ils n'ont pas eu le traitement jusqu'au bout. Alors, malheureusement, les règles méthodologiques font qu'il faut les considérer comme s'ils avaient fait le traitement. C'est vrai que pragmatiquement, ça correspond au fait qu'on avait l'intention de les traiter avec ce traitement et que ça n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais en pratique, pour nous, c'est quand même les 7 qui ont eu le traitement jusqu'au bout qui sont les plus intéressants. Donc, les deux analyses sont importantes. C'est vrai que les méthodologistes, les gens de l'AMM, les gens qui payent, ils veulent l'intention traitée. Ce qui fait que les thérapeutiques, et en particulier les thérapeutiques en 2013, sont un peu en difficulté à cause de ça, parce que c'est vrai que c'est...
Et donc plus il y en a par protocole, évidemment, mieux c'est.
Il y a une étude en Népal qui a été réalisée par Philippe Robert, où ils ont comparé 150 malades. Ayant bénéficiant de soignants ayant eu une information et un coaching. Donc les soignants ont eu une information sur la maladie d'Alzheimer.
On peut en arriver là.
Un suivi psychologique en plus, etc. Et puis, il y a un groupe témoin. Et on a suivi des gens sur la qualité de vie essentiellement et sur et sur également l'évolution de leur performance. Mmh. Bien. L'analyse a été faite par Philippe Robert au départ. Philippe Robert, évidemment, il croyait à son traitement. Donc c'est pas parfait, vous voyez.
Mmh, ah oui.
Donc je lui ai dit, il ne faut absolument pas que ce soit ton équipe qui fasse l'analyse, sinon ça ne passera pas. Ce genre de choses ne passera pas si c'est ton équipe qui fait l'analyse. Vous y croyez trop, en fait, votre manière de prendre en charge le malade. Il faut que ce soit un statisticien indépendant. Parce que le statisticien, il peut vous faire apparaître une signification statistique dans un coup de main. Pas très compliqué. Hein. Il suffit de changer la valeur, même si c'est honnête, je veux dire, ça peut remplacer des données manquantes, faire, etc. Faire du dredging, regarder plusieurs tests. Il faut qu'il soit aveugle, le statisticien. Que l'analyse soit prévue d'avance, déclarée dans le lycée, dont j'ai parlé dans la base de données que je vous ai donnée, et réalisée par un statisticien indépendant. C'est ce qu'on va faire. Nous, avec M23, c'est pas Hélène Améba, c'est pas moi qui vais analyser, parce qu'évidemment, je préfère
trouver un résultat et que ça marche, bien sûr.
Que ça marche, hein. Et il faut que ce soit honnête. Et il faut qu'il y ait les gains. Donc il faut que le statisticien, surtout si en plus on n'a pas l'aveugle, l'insu des patients et l'insu du médecin, ce qu'on ne peut pas avoir dans ces cas-là, il faut qu'on ait l'insu du jugement et l'insu du statisticien. Ça c'est absolument. Donc c'est quatre personnes. C'est quatre personnes. Si on veut vraiment prévaler, qu'il fasse progresser connaissance des théories de l'interrupteur, comme l'interrupteur, il faut ces quatre niveaux d'insulte. C'est compliqué, mais il y a que comme ça qu'on peut progresser.
Au bout de 6 mois, les patients traités par Dimébon ont une différence de points par rapport au placebo pour la DASCOG, qui comporte 70 points, je vous rappelle, de 4 points en moyenne. 4 points en moyenne. Vous avez à côté l'intervalle de confiance, et ce sont les extrêmes, c'est ça, hein, de points, ça va de 2,28 points à 5,73 points, c'est ça, hein.
C'est d'accord,
ça c'est l'intervalle de confiance, donc ça correspond aux bornes, hein, d'accord, dans lesquelles sont 95% des sujets. 95% des sujets ont eu un gain qui va de 2,28 à 5,73.
La vraie différence serait
se situe
entre,
ouais, c'est pas tout à fait pareil,
moins de 28 et d'accord, moins 5,73. D'accord. Ça veut dire qu'elle peut être presque à 6 points de l'AS,
oui,
comme elle peut être presque à 2 points.
À 2 points, d'accord. Ouais, c'est pas tout à fait pareil.
C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'elle peut être simplement à 2 points de l'AS, mais elle peut être à 6 points. Donc avec un essai comme ça, elle est entre 2 et 6 points. Et être entre 2 et 6 points, c'est plus correct que dire qu'elle est entre 4.
D'accord.
C'est deux indicateurs différents. Mm-hmm. Vous comprenez bien que les cliniciens, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils sont optimistes en général. Ils vont regarder le 6. Ils vont dire, regardez, ça pourrait être 6. Ceux qui payent, ils vont dire, vous avez vu, ça pourrait être 2. Mm. Donc c'est c'est un peu ça aussi, ce à quoi ça sert, l'intervalle de confiance.
C'est
quoi cette estice? Et plus la taille de l'échantillon est grande, plus cet intervalle va se relier.
Juste parce que je crois que la diapo n'y est pas après, il faut savoir que la plupart des gens de chaque groupe a continué l'essai 6 mois de plus contre placebo et que cet écart d'ADAS s'est encore creusé. Hein, je vous le dis parce que ça n'est pas marqué et que là, c'est de la pratique, c'est très très important. C'est ce qui a vraiment renforcé encore plus la bonne impression pour ce médicament quand même. Hein. Ça a été capital puisqu'il y a plus de 65% des gens de chaque groupe qui a continué. Hein, donc en ouvert, encore un... Non, encore contre placebo puisque l'écart s'est creusé. Tu vois, ils ont gardé placebo.
Le fait que tout le monde a gagné.
Ouais. C'était déjà...
C'est déjà très positif, parce que des fois, on peut rendre des gains, mais avec des gens qu'on a vus en négatif.
Oui,
Oui.
Ce sont des petits groupes.
Oui.
Tandis que là, ils rendent que tout le monde gagne.
Oui, oui.
Ça, c'était quand même
très. Et alors, si en plus les deux groupes continuent.
Les écarts sur les gens, parce que des fois, on a des gens avec qui ont pris un point ou deux.
Voilà.
Voilà. Donc, dès le départ, c'était tout le monde.
Voilà, donc.
L'écart entre deux.
60.
De voix et de 7.
Ouais, c'est pas mal quand même. Hein.
7 points de base.
7 points au final.
Au final, tu vas voir. Il faut se méfier cet écart parce que.
Oui.
Seulement 65% des sujets ont été suivis dans les euros. Et enfin, oui. Quand même, ça explique.
Ah oui, ça. Alors ça, par contre, ça nous a. Ah, ça. Bon, bref. Et pour terminer les effets secondaires, parce que ça.
Les effets secondaires sont relativement comparables à des molécules hydrocolécialisées. Enfin, c'est pas très élevé. C'est juste la bouche sèche et
voilà,
la bouche d'humeur. Ouais. En sachant qu'une petite différence en notre groupe, c'était une petite différence aussi dans les traitements associés.
Ouais.
Qui peuvent avoir cet effet secondaire.
Enfin, quand même, je crois que la bouche sèche, c'est une propriété du diméban lui-même, voilà, de l'antihistaminique. La dépression, la bouche sèche, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est ennuyeux. Le deuxième effet qui est plus, significativement plus fréquent, c'est la dépression. Et ça peut être plus embêtant, par contre, et ça va être à suivre, ça, un peu.
Le gain moyen de la coque dans les essais. Avec les inhibiteurs de la cholinestérase ou de l'alénosine.
Ah.
Gain moyen.
Avec les inhibiteurs.
Sur 6 mois. 2 points. Deux points.
Donc.
Là, c'est le double.
Là, c'est le double.
Oui,
donc, bon.
Bien sûr. C'est d'accord. C'est un progrès réel. Hein. Si ça se confirme.
Si ça se confirme, hein, bon. Si ça se confirme. Là, maintenant, c'est 3. Là, maintenant, c'est une phase 3.
En fait, vous avez dit sur le didacticiel, qui est très très bien, je vous le redis, un certain nombre de critères pour chaque idée.
Oui.
À l'issue de votre lecture, est-ce que ce que vous avez entre les mains répond, est-ce qu'on peut répondre à ces différentes questions, est-ce qu'on a ces différentes qualités dans la lecture essai? C'est très bien fait, ça permet de faire un peu ce check-in la blessure. On s'arrête là plutôt?
On va s'arrêter là, de toute façon, c'est à peu près l'heure. Est-ce que.
Oui. En clair, s'il y avait un essai contrariciaire, il faudrait combien de sujets pour faire mieux que le diméban? Tu peux répondre à cette question?
Mais là, on est pareil. Puisque
l'essai concert, c'est exactement ce qu'on va faire.
Oui, qui est en cours, oui.
Et c'est combien de sujets, tu sais?
Non.
Plusieurs centaines.
Ouais, donc, plusieurs centaines, c'est sûr, mais.
On est en train de faire cet essai contre.
C'est avec Aricep.
Ça va donner. C'est Aricep plus diméban.
C'est avec.
Aricep.
Oui.
Tout seul. Pas tout à fait ce que tu demandes. Mais c'est contrarié.
Versus placebo, oui. Attends.
Ça, on ne le.
Oui, oui.
Malheureusement, on ne le fait pas.
C'est des gros échantillons.
Ouais, il faut des très gros échantillons.
Pour le comparer.
Méfiez-vous des études sponsorées par les. Alors là. Soyez très méfiants. Vous regardez
mais
ça de près.
Mais là, elles sont toujours.
Ah non.
Mais bon, elle est
non, il n'y avait pas Medivation derrière, là. Non. Ah non. Ah ben bien sûr, j'y suis sûr. Ah non. Non, c'est après. Hein, c'est après. Alors là, par contre, et les études comparatives, vous n'en trouverez guère, enfin, à part celle-là. Mais c'est tout à fait une exception. Je crois que c'est la seule qui soit méthodologiquement correcte.
Désolé, c'est tout un petit, donc c'est un peu comme un contrat de carrière, vous voyez, tout comme ça. Voilà, les contrats sont passés, hein, c'est écrit tout un petit. À la fin de l'article,
il y avait déjà,
l'éducation était déjà San Francisco, USA.
Ah, ça c'est eux, ça va.
Provide study grants and study funding.
Aïe, study funding, aïe. Donc, finalement,
en tout petit,
mes amis. Ah oui.